d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et des membres de l'équipe Attaque et notre invité, donc Verven Angeli.
Verven et Angeli qui nous parlera dans quelques instants des institutions européennes et de leur rôle dans la crise et des propositions concrètes qui seront proposées lors de l'Alter Sommet en juin à Athènes. Mais tout d'abord, des chroniques d'actualité avec Jean-Marc qui commence par nous parler du fait qu'Hollande veut vendre les bijoux de famille.
Alors, Hollande va vendre les bijoux de famille. C'est un grand classique, malheureusement, de la droite, mais aussi de la gauche, puisque déjà en son temps, donc un ancien premier ministre de gauche, ou soi-disant elle l'avait fait, donc vers 97. Il s'agit donc de vendre des participations de l'État dans des entreprises publiques et de les vendre au privé. Ce qui fait que l'État se prive non seulement de ressources, mais aussi de son pouvoir d'action sur ces grandes entreprises stratégiques. C'est ainsi que l'État envisage sous Hollande de comme l'avait fait Jospin en son temps, de vendre des participations de Renault, de vendre des participations d'EDF, de GDF, etc., etc. L'État ne se servait que très peu de cette capacité d'influence depuis des années avec la droite, et la gauche qui aurait pu renouer avec cette tradition d'interventionnisme positif dans l'économie va s'en priver pour faire rentrer de l'argent frais afin de limiter un déficit dont tout le monde se fout, malheureusement. Alors, deuxième chose magnifique dans ce monde ultra-libéral, c'est une annonce internationale qui est tombée de la société Apple, la bien connue marque à la pomme, qui a quand même, d'après les estimations, à peu près 100 milliards d'encours dans le monde. Et alors qu'elle a 100 milliards d'encours dans le monde, Apple va emprunter 17 milliards. 17 milliards sur les marchés américains. Et 17 milliards qui vont servir à quoi ? 17 milliards pour augmenter les dividendes des actionnaires, pour 10 milliards au moins sur les 17. Alors, pourquoi une entreprise va emprunter de l'argent pour augmenter les dividendes ? Première question. Et deuxièmement, pourquoi une entreprise qui a 100 milliards d'encours dans le monde va s'amuser à emprunter 17 milliards ?
Oui, explique-nous, tonton Jacob.
Eh bien, c'est très simple. Nous sommes dans un monde bien délirant. Apple a 100 milliards placés dans le monde, dans des paradis fiscaux notamment. Et si elle rapatriait les 17 milliards dont elle a besoin aux États-Unis pour engraisser les actionnaires américains, elle devrait payer des taxes. 30% à peu près de taxes. Et donc, elle préfère emprunter 17 milliards aux États-Unis. Ça lui coûte moins cher que de rapatrier de l'argent de ses paradis fiscaux. Magnifique. Et tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. Et malgré les grandes promesses qui avaient été faites en 2008, au moment de la crise internationale, où on avait dit qu'on allait vachement moraliser le capitalisme.
Alors, on vient en France pour parler à présent de la Société Générale.
Alors la Société Générale qui a beaucoup fait parler d'elle en 2008 et même un petit peu avant avec les problèmes de l'affaire Kerviel, cette Société Générale tellement bien gérée, s'apprête à faire deux choses en même temps. La première chose, c'est de virer des gens. C'est très bon pour l'économie de virer des gens et ça fait monter les actions. Et au moment même où elle vire des gens, eh bien le patron de la Société Générale va s'augmenter de 30%. Donc d'un côté, on va virer à peu près 1000 à 1500 personnes à la Société Générale pour les remercier d'avoir suivi les ordres de patrons défaillants. Et ces mêmes patrons défaillants vont s'augmenter. La logique ultralibérale est véritablement extraordinaire. Alors pour finir et peut-être pour faire la transition avec Gaël, une petite blague quand même sympathique. C'est sur le décompte des manifestants et ce problème est un problème qui est quand même très très ancien puisque dès l'Antiquité il y avait des problèmes. C'est une histoire qui nous vient de l'armée romaine. Jésus avait 12 apôtres et 3 d'après la police.
Alors pour ceux qui n'ont pas compris, hein, c'est toujours le fameux débat du nombre de manifestants qui sont déclarés d'un côté par les organisateurs, de l'autre par les forces de l'ordre. Et le week-end dernier, le 5 mai, la manifestation, enfin le rassemblement prévu par le Front de Gauche sur le thème « En avant vers la 6e République », proclamé 180 000 personnes et seulement 30 000 participants d'après la police. Gaël était présent, c'est notre envoyé spécial avec Jean-Marc, et à ton avis, il y avait combien de monde dans cette manifestation ?
Beaucoup, indépendamment des chiffrages. Dimanche, effectivement, la gauche était dans la rue. C'était la marche citoyenne, organisée notamment par le Front de Gauche, et Jean-Marc et moi y étions. Nous avons d'abord rencontré Anton, un fan de Mélenchon de 5 ans et demi, je crois précisément, à qui j'ai fait part de mes réserves sur le fameux parler cru et dru.
Bonjour Eva Joly, est-ce que vous pouvez nous expliquer
Alors, le parler cru en une des rues, donc c'est un petit garçon Anton de 5 ans qui essayait de s'exprimer sur cette notion que dont on parle. Et nous rabâche les journaux, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a un parler assez cru. Même d'ailleurs, peut-être que c'est même un avantage, vu que c'est grâce à ça qu'il est toujours sur le devant de la scène. À chaque fois qu'il s'exprime, c'est pour employer des termes excessivement forts. Alors, le petit Anton, 5 ans, je crois qu'on n'aura pas la bande
son. On ne l'aura pas, malheureusement, mais c'est pas grave. Donc, Anton allait crier à la manif, et donc, pour lui, Jean-Luc Mélenchon parle cru et dru, parce qu'il a plein de choses à dire et des choses importantes. Alors, parmi ces gens de la manif avec qui criaient avec nous, il y avait un autre Gaël dont la pancarte reproduisait le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Le tableau était un petit peu modifié.
C'est une affiche qui représente la Révolution française, et en fait on la remet au goût du jour parce qu'on trouve que les choses n'ont pas tellement changé. Et on remplace les armes par des balais, parce que la phrase de Mélenchon du balais, donc c'est pour faire un lien, puisqu'on est là pour... voilà.
D'accord. Et tu appartiens à un groupe ou tu es venu en individuel?
Je suis venu en individuel avec des amis.
D'accord, mais pas de groupe politique particulier.
À partir de là.
Donc en tant que simple citoyen, ça fait relation à la 6ème République.
Voilà. D'accord. Citoyen engagé qui sent que les choses doivent changer.
Et une des choses qui doit changer, justement, ce sont les relations patron-salariés, comme l'explique ce militant PC que j'ai rencontré avec une autre pancarte.
Il y avait beaucoup de monde dans la rue. On voit plein de militants de différents bords. D'ailleurs, c'est même un peu ce que les médias n'ont pas su refléter. On parle toujours de Jean-Luc Mélenchon et du Parti de gauche, à la rigueur un peu du PCF.
Bon, finalement, il y avait donc un militant
PCF.
Aussi des gens du PC et beaucoup même.
Vous pouvez décrire la pancarte avec le patron et l'ouvrier?
La pancarte là, mais c'est pour qu'il y ait le dialogue social. Aujourd'hui, il n'y a pas le dialogue, c'est-à-dire que ou l'ouvrier il cède, ou alors on ferme l'usine. Donc nous, on dit on peut couper la poire en deux. Bon, ben l'image, elle est parlante.
Pour l'auditeur, couper la poire en deux, c'est quoi? Ça va être
couper la tête du patron.
Voilà, avec une guillotine.
Voilà.
Bon, ce que vous répondent les sociolibéraux quand vous leur dites ça, c'est que si on rogne pas un petit peu sur nos droits, les emplois vont partir ailleurs.
C'est pas vrai! Plus on rogne sur nos droits, plus ils partent ailleurs. C'est parce qu'on a rogné sur nos droits qu'ils partent ailleurs. C'est parce qu'on a tout accepté. C'est parce qu'on a cédé sur tout qu'ils partent ailleurs. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est les patrons qui font la loi et les banques qui les commandent. Quand c'est qu'on aura compris que l'ouvrier qui travaille dans l'entreprise, le salarié qui travaille dans l'entreprise, il a son mot à dire parce qu'il est le premier concerné. C'est lui qui a son mot à dire. C'est son avenir, c'est sa vie, c'est son stress. Il y en a marre de vivre stressé, de se suicider au boulot, de crever pour les bâtards. Il faut que ça change. Et aujourd'hui, il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas des animaux, qu'on est des humains. Quand on dit l'humain d'abord, c'est qu'il faut respecter les êtres humains. Il n'y a pas que le chiffre qui compte. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Donc il y a le chiffre, c'est une chose. Mais si ça ne tient pas compte ni de l'être humain, ni de l'environnement, eh bien, la politique économique, elle est foutue.
Alors vous êtes militant?
Moi, je suis militant PC.
D'accord, depuis combien de temps?
Depuis toujours. Là, je suis content, je suis heureux. Eh bien voilà, j'ai pris la retraite à 57 ans et je m'éclate et je milite deux fois plus qu'avant.
Et donc, ce militant avec l'accent du Sud n'était pas le seul du Sud. Il y avait aussi le cortège du Front de Gauche Latino. Alors, le Front de Gauche Latino, qu'est-ce que c'est? Grégorio, un des animateurs, va nous l'expliquer.
Le Front de Gauche Latino, il est né. C'est un petit mouvement qui est né avec le mouvement du Front de Gauche français. Aux élections présidentielles en soutenant la candidature de Mélenchon et tout le programme de l'humain d'abord.
D'accord. Et c'est donc, je suppose, en rapport avec les programmes latino-américains en Équateur, en Venezuela.
On est, si vous voulez, on est plusieurs latino-américains qui travaillaient chacun de leur côté, les Chiliens qui soutenaient aussi la campagne de Mélenchon, les Colombiens, les Argentins de tous les différents pays. Et chacun, en utilisant, en s'inspirant déjà dans cette révolution démocratique des gauches qui sont nées avec Lula, Chavez et toutes les autres, Evo Morales et tous les pays latino-américains, on a décidé effectivement de ramener cette synergie latino-américaine pour la porter au front de gauche en France.
D'accord.
Pour la campagne, voilà.
Donc c'est établir un pont entre ce qui s'est passé en Amérique latine ces dernières années et ce qui pourrait se produire en Europe.
Exactement. Exactement. On a... L'Amérique du Sud a été influencée par l'Europe, par son histoire, par toute la colonisation et tout ça. Aujourd'hui, le continent latino-américain est démocratique, et je le mets entre guillemets, parce que ça dépend des pays.
Oui.
Et aujourd'hui, on veut donner aussi dans quelques heures une leçon de comment la démocratie peut vraiment faire les bons choix pour faire évoluer la société.
D'accord.
Une vraie société des gauches.
Et cette évolution souhaitée par Grégorio et par beaucoup d'entre nous, c'est sans doute ce qu'on appelle la 6e République, une revendication portée par Olivier.
On a vu votre pancarte, est-ce que vous pouvez la décrire pour la radio et le slogan qui est dessus ?
Eh bien, donc c'est écrit « Arrêtons la marche arrière, passons la 6e ».
Et alors, est-ce que vous pouvez l'expliquer pour les auditeurs ?
Donc, on a l'impression qu'on est dans une phase difficile où effectivement plein de choses sont en train de régresser. Et que la 6e République permettra de donner un nouveau départ dans plein de choses, les institutions, la relation du peuple avec ses politiques, et puis une politique plus sociale, écologiste, voilà.
D'accord. Et passons à la 6e. Vous êtes sur quelle base avec
Nous, on a mis « passons la 6e ».
La 6e,
c'est
oui.
Encore différent, c'est-à-dire qu'il faut accélérer.
D'accord.
C'est le moment où il faut vraiment accélérer les choses, parce que mais à un moment où... Si on ne réussit pas à créer un élan, d'autres se réfugieront dans des discours qui sont vraiment populistes, pour le coup, voire haineux.
D'accord.
Et les grandes lignes de la constitution de la 6e, vous les avez définies déjà un petit peu ?
Non, on n'a rien défini, justement, c'est le principe, c'est qu'il faut d'abord donner la parole au peuple. On sait effectivement qu'aujourd'hui, il est important de créer des institutions qui permettent une démocratie plus élargie, plus participative. À partir de là, donc, toutes les idées sont ouvertes. Mélenchon parle du référendum révocatoire. Il y a effectivement aussi la possibilité d'avoir des référendums d'initiative populaire plus élargis aussi. Pourquoi pas voir ce que font les Suisses dans une certaine mesure. Mais bon, il y a plein d'autres idées qui sont à traiter dans les assemblées constituantes.
Voilà, la 6e République, c'est aussi le souhait d'Eva Joly qui était en tête du cortège des Verts. Un cortège peu fourni comparé au front de gauche, mais qui montre que tous les Verts ne sont pas convertis au social-libéralisme.
Bonjour Eva Joly, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc la présence des écologistes dans la manif aujourd'hui, qui nous fait très plaisir ?
Oui, alors nous sommes là pour la 6e République et nous souhaitons une mobilisation forte de la société civile pour imposer de vraies réformes à notre gouvernement.
Et est-ce qu'en matière d'écologie, le changement de constitution a une importance fondamentale ?
Les préoccupations écologiques aujourd'hui ne sont pas assez présentes. Et c'est clair que dans une future constitution, on doit développer la protection de l'environnement et la place de l'homme dans la nature.
D'accord. Et donc les Verts pourraient s'engager dans le processus proposé par le Front de Gauche de mettre en place des assemblées locales pour préparer la Constitution.
L'idée de la 6e République n'est pas une idée du Front de Gauche, c'est aussi une idée que je portais pendant la campagne présidentielle.
Voilà, alors je ne sais pas qui a eu le premier l'idée de 6e République, mais c'est sans doute pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que contrairement à ce qu'ont répété les médias, cette manif n'était pas la manif de Mélenchon, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, mais la manif de toute la gauche, et on peut dire que la gauche était bien là et forte.
Et pour se mettre encore plus en avant dans cette manifestation, on peut réécouter la chanson slogan qui a porté entre autres la présidentielle d'Eva Joly, pas vraiment, mais de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas l'an dernier, « On lâche rien » par HK et les Saltimbanques.
Walou.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et des membres de l'association ATTAC.
Et nous recevons ce soir Verène Angéli, membre du syndicat Solidaire, et elle est aussi ici en tant que porte-parole de l'association ATTAC. Et le thème que nous allons aborder avec elle est un mot un peu compliqué, c'est le rôle des institutions européennes dans cette, ce que l'on appelle la crise économique du moment. Alors, Verène, première question peut-être. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle les institutions européennes, surtout celles qui ont un rôle économique pour agir sur la crise ?
En fait, les institutions européennes sont diverses. On va dire, y compris qu'il y a une construction institutionnelle en Europe qui est assez complexe, hein, puisque on a un Parlement, on a la Commission dont on entend beaucoup parler, on a la Banque centrale qui fait partie des institutions européennes, mais on a de plus en plus aussi le rôle de tout ce que sont les conférences intergouvernementales, et je pourrais y revenir, mais qui ont un rôle de plus en plus important aujourd'hui. Donc les institutions essentielles qui jouent un rôle dans cette crise-là, mais comme de tradition en fait hein, dans l'Union européenne, c'est essentiellement la Banque centrale et la Commission qui, avec le Fonds monétaire international, constituent ce que dénoncent les Grecs, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, sous l'appellation Troïka. C'est-à-dire c'est ces trois institutions-là, Commission, Banque centrale et FMI, qui constituent la Troïka et qui ont joué le rôle, en fait, d'imposer des solutions aux pays en crise dans la zone euro.
Alors en France, ce mot n'apparaît pas forcément tout le temps dans les médias, mais le mot Troïka, vu d'Espagne et vu de Grèce, c'est le grand méchant, celui qui impose l'austérité. Alors si on rentre un peu dans les détails, cette Troïka, on vient de dire, est composée du Fonds monétaire international qui n'appartient pas aux institutions européennes, et puis donc de la Commission et de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'on peut un peu détailler le rôle principal ?
Alors en fait, la Banque centrale intervient parce que c'est elle qui est la garante en fait de la zone euro. Hein. Alors avec un rôle très particulier parce qu'en fait c'est quasiment le seul endroit dans le monde où on a une banque qui est indépendante politiquement de l'entité à laquelle elle appartient. Donc elle a ce rôle de financement et d'intervention dans la crise au plan bancaire, au plan financier. Et la Commission, c'est elle qui donne toutes les orientations en matière de réduction des déficits, ce qui a été important, mesures de compétitivité, ce qui est aussi un autre élément important, mais aussi mesures sur les questions bancaires, par exemple, comme ça a été le cas dernièrement à Chypre.
On peut peut-être rappeler pour les auditeurs que les États-Unis, qui sont pourtant un pays ultralibéral, la banque n'est pas libre comme la BCE ou l'Angleterre, qui est pourtant le creuset de l'ultralibéralisme non plus.
Bien sûr.
Donc une banque, si on veut schématiser, c'est celle qui va prêter de l'argent, c'est celle qui refusera de prêter de l'argent, hein, si on veut un peu résumer cet organe-là. Alors à côté de cet organe économique indépendant, il y a les organes qui sont eux un peu plus élus, enfin, on parlait de démocratie au niveau européen, la Commission qui est choisie, et puis ces fameuses conférences qui rassemblent les grands argentiers ou les chefs d'État et qui prennent des décisions qui sont parfois assez extrêmes.
Alors en fait, dans l'évolution sous l'impact de la crise, on va dire, hein, des institutions européennes, on a deux phénomènes qui révèlent la situation extrêmement difficile dans laquelle est l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire que on a d'un côté un renforcement des institutions extrêmement important, avec un côté renforcement y compris antidémocratique, hein, c'est-à-dire quand on prend le mécanisme européen de stabilité, ce qu'on appelle le six-pack, le two-pack, qui sont des directives en fait qui visent à contrôler les déficits des États et à contrôler les décisions budgétaires qui sont prises par les assemblées, les parlements nationaux, les contrôler a priori, hein, c'est-à-dire de demander véritablement que l'Europe puisse avoir la main mise sur les décisions des seuls organes élus démocratiquement. Bien, on a un renforcement de ces éléments-là. Le dernier étant aussi le traité qui a été approuvé en France, y compris en septembre dernier. Et donc, on a un renforcement de l'arsenal institutionnel européen d'un côté, dans cette volonté-là de contrôler les États. Et en parallèle de ça, on a en fait la manifestation dans les conférences intergouvernementales d'un système de pression des États, soit les plus forts, ça peut être l'Allemagne, ça peut être la France aussi, hein, on fait partie des États les plus forts, mais ça peut être aussi la Grande-Bretagne à un moment donné, ce qui donne des résultats en fait assez ahurissants dans cette période où il y a ce renforcement que j'ai décrit avant, qui est que le Parlement européen se retrouve avec un budget qui est considérablement réduit. Résultat de décisions qui ont été prises par des conférences intergouvernementales. Donc en fait, on a d'un côté ce renforcement-là et puis un tiraillement entre les États parce que la construction européenne qui est aussi le résultat de la mise en compétition de tous contre tous, c'est aussi ça qu'exprime la crise de façon très importante aujourd'hui.
Donc ce phénomène de crise met en relief peut-être une certaine limite des institutions politiques, mais là, on voit quand même une volonté assez globale d'aller vers ce qu'on appelle l'austérité, certains appellent par la rigueur en France, où on parlait il y a quelque temps de la règle d'or, comme si c'était des règles qui allaient être figées définitivement. Puis là, on voit, l'actualité nous l'indique, que finalement, la France a droit à 2 ans de bonus pour ne pas appliquer totalement toutes les règles. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces règles politiques vont dans un sens intéressant, ou alors est-ce que c'est justement elles qui vont aggraver la crise ?
Alors, ça me semble important de revenir sur les termes austérité, rigueur, règle d'or, etc. Je pense que ce qu'il y a de nouveau dans la situation qu'on connaît aujourd'hui depuis le début de la crise, c'est qu'en fait, la question de l'austérité, c'est pas simplement une réponse ponctuelle qui est apportée à une situation difficile, mais c'est véritablement un arsenal qui est mis en place pour une politique durable. C'est-à-dire que ce qu'on entend tous les matins comme la mauvaise nouvelle du jour, à la radio, dans d'autres radios que celle-ci, bon, c'est une politique systématique qui est mise en place pour toutes les années à venir. Et dans la règle d'or, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que la limitation des déficits, les politiques de compétitivité qui doivent s'inscrire aussi dans les politiques des États, tout ce qui est avancé sur les politiques qui concernent la protection sociale, les retraites, les privatisations dont il était question tout à l'heure, etc. Tout ça, c'est un feu roulant, en fait, pour des politiques extrêmement durables. D'où le fait que y a besoin d'inscrire ça soit dans des lois, soit dans la Constitution, etc., sous la forme des règles d'or.
Et puis, il ne faut pas oublier peut-être que c'est un moyen d'empêcher la démocratie de fonctionner au sein de l'Europe et dans les pays, puisque s'il y a une règle d'or, ça veut dire que les institutions des différents pays n'ont plus aucune autonomie.
Bien sûr, le traité, le TSCG qui a été ratifié en septembre dernier en France, exprimait tout à fait ça, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui des éléments de juridiques, on va dire, qui deviennent extrêmement contraignants pour l'ensemble des États, quelle que soit leur situation économique, quelle que soit leur décision démocratique demain, quelles que soient les majorités qui viendront à être élues. Ce qui exprime aussi le fait qu'à un moment donné, si on veut changer ça, il y a obligatoirement des éléments de rupture extrêmement importants avec le système institutionnel européen qu'il faudra mettre en œuvre. Ce qui n'est pas facile à concevoir, à imaginer, à penser, etc. Mais ce que des vrais gouvernements de gauche devraient obligatoirement se coltiner comme problème, quoi.
C'est une véritable contradiction d'imaginer, comme on dit toujours, qu'en pleine crise du libéralisme, on est en train d'écrire le système économique libéral comme un texte de loi au niveau européen.
On est en train de faire ça, et je dirais plus encore, on est en train de réaliser le rêve du patronat des pays européens et au-delà de ça. Je veux dire, le rêve néolibéral, le rêve, les demandes du MEDEF, quand on prend l'accord Annie et sa transcription dans la loi telle que ils ont été discutés et décidés là, en fait, on se rend compte que cette affaire de flexicurité, d'accord de compétitivité, etc., c'est des choses qui sont à l'œuvre en fait depuis plus de 10 ans. Porté dans un certain nombre de textes européens, etc. Alors, par des politiques qui étaient plus souples, qui étaient des choses dans l'esprit de coordination, d'entraide entre États, etc., pour mettre en place un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, en fait, on a véritablement quelque chose qui est de l'ordre du rouleau compresseur, puisque on inscrit ça partout sous prétexte de la crise et avec y compris ces espèces de chantage qui sont que par exemple, ben on va donner 2 ans de plus à la France et 2 ans de plus à l'Espagne pour revenir dans le droit chemin et en fait dans les chiffres de déficit autorisé, mais qu'en même temps on leur demande d'accélérer les réformes structurelles qui sont ces réformes là en fait, hein.
Alors, la question maintenant, c'est, et ce qu'on va peut-être voir dans une deuxième partie, c'est finalement que toutes ces décisions politiques très libérales ne font finalement, enfin, on se persuade, quand on analyse ça avec des yeux altermondialistes, que ce sont les raisons et peut-être ce qui pousse encore plus dans cette crise économique.
Ben, c'est pas simplement qu'on se persuade, hein, quand on est altermondialiste, c'est-à-dire quand on regarde, mais ça, je veux dire, tous les observateurs, c'est même pas une question d'honnêteté, etc. Je veux dire, c'est la question de l'augmentation du chômage, par exemple, c'est un constat, même si on prend les statistiques très officielles, hein. Je veux dire, le chômage augmente dans la zone euro de manière nette, hein. Je veux dire, on est autour de 12% aujourd'hui. Il y a des pays, la Grèce est à plus de 26% de chômeurs. Bon, on est et puis on est dans la récession. On est aussi dans la récession, c'est-à-dire qu'on a ces deux phénomènes-là. Alors, ceux qui croient aux mesures qu'ils prennent disent que après cette cure d'austérité et de malheur, etc., les choses vont repartir. Mais pour l'instant, les choses ne repartent pas et loin de là. On est véritablement très loin. Et y compris, il y a une certaine malhonnêteté, qui a été évoquée autour de l'affaire des erreurs du FMI dans ses calculs, hein, sur les effets multiplicateurs qui n'étaient pas pris en compte, etc. Donc, il y a une aggravation de la crise, mais qu'on voit, y compris, qu'on voit ici, nous, en France, tous les jours, avec les gens dans la rue, avec les difficultés pour trouver de l'emploi, etc., les usines qui ferment, je veux dire, on est en plein dedans, hein.
Oui, je voulais juste embrayer et insister sur le FMI, puisqu'on a vu il y a quelques semaines que le FMI avait reconnu son erreur sur les modes de calcul, avait déclaré qu'il était une erreur de faire de l'austérité, que ça allait entraîner une crise bien plus grave, notamment au niveau de l'emploi. Et une semaine après, Christine Lagarde, présidente du FMI, dit qu'il faut plus d'austérité.
Alors, plus d'austérité, ce que nous disent les puissants. Alors, quand on est dans la rue et qu'on est au mois de mai, des fois, on a envie de chanter des chansons. Par exemple, « Mai » de Claude Nougaro.
Mais, Paris, mais, Paris. Je repère, en passant, Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bombe. Paris,
et on retrouve notre interview de Verven Angeli, porte-parole d'Attac, au sujet des institutions européennes et de leur rôle dans la crise. Après avoir vu un peu le rôle respectif et le côté réformateur de l'ensemble des traités qui ont progressivement amené le libéralisme comme un texte officiel que doit respecter tous les États, quelle qu'en soit leur opinion politique d'ailleurs, on va maintenant prendre le contre-pied en essayant de voir quelles sont les propositions alternatives économiquement et socialement à cet ensemble d'avancées des institutions européennes. Alors peut-être
c'est pas la peine, vous savez bien que c'est inéluctable, qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça, depuis Thatcher, on nous le dit, vous n'avez pas encore compris, vous êtes vraiment bouchés, les gauchistes.
On est vraiment bouchés. Et le pire, c'est qu'on a souvent raison d'être bouchés, parce que si on regarde à travers l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une vraie pommade d'austérité dans certains pays, comme l'Argentine ou autre...
Dans certains cas, on appelle ça du lubrifiant, mais...
Ouais, d'accord. Alors, essayons d'être concrets. Alors, avec Verven Angeli, peut-être une première question, c'est celle que nous assènent régulièrement les médias, c'est que le contraire d'austérité, c'est la relance économique. Alors, est-ce que c'est une proposition concrète recevable ou est-ce que ce mot de relance économique est critiquable ?
Ben, Je dirais que la relance, ça fait pas partie de l'arsenal des propositions d'attaque. Alors après, on peut, je veux dire, il pourrait y avoir une politique de relance avec des éléments qu'on trouverait positifs, etc. En quelques mots, pourquoi ça fait pas partie de notre mode de pensée, c'est qu'en fait, on considère que la crise économique, la crise financière et la crise qu'on connaît en Europe, c'est aussi une crise qui a une dimension écologique, qui a une dimension climatique, qui a une dimension dans les rapports Nord-Sud, qui a des dimensions imbriquées, je dirais. Et que pour nous, alors, il y a une série de propositions concrètes qui peuvent être faites pour améliorer les choses, y compris, on pense qu'il y a certaines propositions même qui peuvent être limitées et qui peuvent changer des choses. Mais disons que, de manière générale, on pense que il faudrait véritablement un changement extrêmement important et que dire une politique de relance ou une politique de croissance, ce serait nier le fait qu'il y ait la croissance, c'est la recherche absolue de la croissance, je dirais, c'est aussi ce qui nous mène dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc la relance, ça ne fait pas partie de notre arsenal, de notre mode de pensée. Pour donner quelques exemples, aujourd'hui, il y a et il va y avoir samedi d'ailleurs, une initiative contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est une manifestation qu'on soutient, à laquelle on participe. Et pour nous, le fait que cet aéroport serait susceptible de créer des emplois, serait susceptible de renforcer l'attractivité économique de la région de Nantes, etc., c'est pas un argument suffisant pour accepter qu'il y ait destruction de zones humides, de zones agricoles, etc., pour justifier les partenariats publics-privés qui sont mis en place à cette occasion-là, etc. Donc c'est un des exemples pour lesquels nous, on ne raisonne pas obligatoirement de cette manière.
Donc en quelque sorte, la croissance, ce n'est pas un mot qu'on apprécie à ce moment-là, mais en tout cas, ça serait, pourquoi pas, investir dans ce qu'on aimerait voir se développer, l'éducation, pourquoi pas des plans plus écologiques d'amélioration. Donc cette relance-là, en tout cas, c'est pas elle qui va, a priori, permettre de sauver un monde où il n'y a plus de croissance, quoi.
Alors, effectivement, je veux dire que... on est pour la croissance des services publics, pour la croissance des biens communs, pour la croissance du logement social, etc. C'est des choses qui peuvent, en revanche, nous appartenir, y compris le fait qu'il y a un certain nombre de biens qui sortent de l'espace marchand et qui peuvent croître et dans lesquels on peut faire des investissements. Ça nous semble tout à fait justifié. Mais ça renvoie pas l'image de la croissance qui est portée quand on dit on va faire des politiques de relance pour la croissance, etc.
Alors aujourd'hui, chaque pays essaye localement de mettre en place des réformes, et ce qu'on est toujours effrayé, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, avec l'ANI, la loi qui a été votée dernièrement sur la flexisécurité, très dangereuse pour le droit du travail en France. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une autre convergence alternative à tous ces projets d'austérité ?
Alors, pour nous d'abord, en termes de mesures, il peut y avoir toujours des mesures nationales qui sont prises et sans doute que de façon transitoire, pour sortir de la situation de crise dans laquelle est l'Europe, il y aura des États qui prendront des mesures transitoires. C'est quasiment certain. Mais la zone, on va dire, européenne dans le monde... la construction européenne telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent nous fait penser que il y a absolument besoin d'un certain nombre de réponses économiques, alors pas seulement économiques, mais économiques aussi au niveau européen, parce que justement ce qu'on a construit jusqu'à présent, ce que les gouvernements ont construit, c'est des logiques de concurrence, des logiques de compétitivité, et qui sont des logiques destructrices. Et nous, nous sommes favorables, nous ne sommes pas les seuls, à mettre en place des politiques de convergence sur les questions sociales, de convergence sur les questions fiscales. On n'est pas les seuls, hein, je veux dire, les gouvernements récemment ont dit qu'il fallait un certain nombre de politiques de convergence au niveau fiscal, par exemple. Alors, je veux dire, ils n'ont pas mis en place le début de ces mesures de convergence, mais ils reconnaissent qu'aujourd'hui, le dumping fiscal, c'est quelque chose qui fait énormément de mal à l'Europe.
Oui, tout à l'heure, dans la petite chronique, je citais le cas d'Apple. Sur 100 milliards d'encours d'Apple qui sont placés dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'Apple a volé 50 ou 60 milliards aux différents États dans lesquels il réalise ses affaires. Autant pour financer les différents États et les politiques sociales dont on parlait précédemment.
Alors, le cas d'Apple est connu, le cas de Google aussi. Il y a des procès qui ont lieu en Grande-Bretagne en ce moment contre un certain nombre de grandes entreprises américaines. Mais il faut savoir que les multinationales françaises pratiquent aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que, y compris pour des entreprises qui ont un fort caractère national, voire je dirais dans lequel l'État à des participations fortes, on a des politiques de dumping fiscal qui font par exemple que il y a de l'argent, puisque c'est des multinationales, qui remontent via des filiales qui sont des holdings financières en Belgique, au Luxembourg. C'est des pratiques qui sont qu'on appelle optimisation fiscale dans ces entreprises-là, mais c'est l'utilisation du dumping et c'est quand même un gros problème.
Comme Total ou Auchan, par exemple ou...
Oui, Total, Auchan. Beaucoup. Je pense que l'essentiel des entreprises du CAC 40 aujourd'hui sont en situation de où elles font ce genre de choses. Ce n'est pas simplement Total qui a l'essentiel de ses productions à l'étranger, hein, mais c'est toutes les entreprises du CAC 40 quasiment qui sont dans cette situation.
Quand on imagine les masses monétaires qui échappent donc à l'impôt et qui pourraient venir aider les États à développer autrement l'entraide sociale, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur une logique économique face à une logique alternative? C'est d'un côté, on nous explique que la crise est là, précise, on a des chiffres qui sont assez horribles entre les chômeurs, entre la récession, et de l'autre, finalement, des richesses énorme au niveau international, au niveau bancaire. Alors, quelles seraient les solutions économiques qui permettent qui seraient capables de venir compenser tout cela?
Mais en fait, en matière fiscale, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a l'harmonisation fiscale en Europe, qui est un élément essentiel pour éviter une grande partie de l'évasion fiscale, du dumping, etc. Parce que c'est y compris un rapport de proximité qui est quelque chose de relativement facile à régler. Et de, je veux dire, les éléments de contrôle sont des choses assez simples. Je veux dire, on peut aujourd'hui imposer aux entreprises une transparence. Dans les grandes entreprises, vous avez des règles qui sont de plus en plus contraignantes. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le Grenelle 2, toutes les mesures qui sont imposées aux entreprises en termes de reporting sur leur consommation de carbone, sur l'utilisation de telle ou telle chose, etc. On pourrait imposer aux entreprises une parfaite transparence sur la question des flux financiers. Je veux dire, on pourrait mettre des choses comme ça dans la loi. Ça c'est de nature à fournir des ressources en matière fiscale assez considérables. Hein. Alors, je veux dire, ce qui est vrai pour les entreprises est vrai. Je veux dire, pour les particuliers riches, etc., il y a des règles qui pourraient être imposées aux banques si on souhaitait que l'industrie financière soit contrôlée. Alors, j'en profite pour signaler qu'il y a une pétition qui a été mise en place par attaque hein, sur la question des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale, qui donne une série de propositions qui sont extrêmement simples à mettre en place. Ça n'a rien à voir avec le fait que les députés ou autres responsables politiques publient leur patrimoine, même si ça ne nous choque pas qu'ils le fassent. Mais c'est des vraies mesures qui permettraient de lutter contre l'évasion fiscale.
Oui, des vraies mesures et pas seulement des effets d'annonce comme on a eu beaucoup avec l'affaire Cahuzac qui, où on a rivalisé de bonnes intentions mais où finalement il n'y a pas grand chose.
Alors si maintenant on rentre dans la partie un peu plus technique, monétaire, aujourd'hui la crise financière est aussi une crise de liquidité. Les États disent, certains États comme l'Espagne ou la Grèce disent je n'arrive plus à emprunter, je n'ai plus d'argent pour payer mes fonctionnaires. Alors quels sont les moyens alternatifs concrets qu'on peut leur proposer ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. La première chose, c'est que, on l'a évoqué en tout début de discussion, la Banque centrale européenne, c'est la seule banque centrale qui est indépendante politiquement des institutions de la zone dans laquelle elle se situe. Et nous considérons que la banque centrale, elle devrait être utilisée comme le sont les autres banques centrales dans l'économie mondiale, bien pour financer ce qui est nécessaire pour les économies. Donc la première chose, ce serait de remettre en cause donc l'indépendance de la banque centrale et de lui permettre de financer directement les États qui ont besoin de ces finances. La deuxième chose, c'est d'aller mettre notre nez, quand je dis notre, c'est un nez citoyen, le nez des populations concernées, etc., dans ce que sont les dettes des États aujourd'hui. Et nous avons participé en France, mais pas simplement en France, puisque ATTAC appartient à un réseau européen d'associations ATTAC. Dans d'autres pays aussi, c'est le cas du Portugal par exemple, où il y a eu le même type de campagne qui a été fait avec un rapport d'audit qui a été rendu public au mois de février dernier, je crois. Bien, nous sommes pour qu'il y ait des audits de la dette qui soient faits dans l'ensemble des pays où on dit que la dette est un problème important, pour que il soit fait état des raisons de cette dette, des moyens de la combattre, et y compris le fait de savoir s'il faut rembourser totalement cette dette ou pas rembourser cette dette.
Alors le CADTM qu'on a reçu il y a quelques semaines ici même parle lui-même d'une partie des dettes qui sont les dettes illégitimes. Oui. Il divise les dettes des États en deux parties, la dette légitime et la dette illégitime. C'est ce dont tu parles, je suppose.
Oui, tout à fait.
Alors, on a vu un ensemble de propositions concrètes et malheureusement, on entend assez peu écho dans la classe politique, un petit peu en France au travers du Front de Gauche et puis porté par des associations comme ATTAC qui commencent à avoir un peu écho dans les médias. Mais finalement, comment aujourd'hui monter un mouvement politique, pourquoi pas à l'échelle européenne, pour arriver à porter ces idées? Et je crois que c'est ce qu'il y a pour ce qui est l'objectif de l'Alter Sommet qui aura lieu le 4 et 5 juin à Athènes prochainement.
Alors, mouvement politique, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserais. Je dirais ça. Nous, on est dans. On
politique
est...
au sens noble.
Non, mais tout à fait. Je veux dire, ATTAC fait de la politique et tout le monde fait de la politique tout le temps. Mais mouvement politique, souvent, ça prend un sens particulier. Donc, nous, on est dans l'idée que il y a besoin, au niveau européen, de réponses politiques. Portés par des mouvements sociaux, associatifs, des organisations syndicales, y compris des partis, des représentants de partis, etc., qui soient des réponses européennes. C'est-à-dire que on pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation qui sont d'entrée des mobilisations européennes, mais que quand on prend dans les pays qui sont le plus touchés par la crise... si on prend ce qui se passe en Grèce, si on se prend ce qui se passe en Espagne, au Portugal, etc., on se rend compte qu'il y a un caractère profondément ancré au niveau local de ces mobilisations-là. Mais nous pensons qu'en même temps, il faut qu'il y ait des réponses européennes qui soient élaborées, portées par les mouvements sociaux, parce que les dynamiques nationales peuvent très difficilement aboutir à une remise en cause de ce système extrêmement complexe dont on a discuté jusque-là, porté par les institutions européennes, par une zone économique y compris très intégrée qui s'est construite depuis longtemps. Donc il y a aussi besoin de réponses européennes portées par des mouvements européens.
Mais alors là, est-ce que la boucle n'est pas bouclée par rapport au début de ton intervention ou par rapport à la relation que Gaël a fait de la manifestation du 5 mai? C'est, est-ce qu'on peut arriver à faire ce genre de réforme sans un grand coup de balai, pour emprunter l'expression de Mélenchon, sur des institutions européennes qui ne sont pas démocratiques pour la plupart et qui sont parfaitement opaques?
Moi, je dis la question du coup de balai, c'est pas tant d'appeler au coup de balai que de savoir. Est-ce qu'on a les moyens, comment on va pousser le balai, est-ce qu'on a les moyens de l'utiliser, etc. Donc la discussion qui est importante et qu'on essaye de porter un petit peu dans tous les endroits où on peut avoir cette discussion-là, hein, je veux dire dans les mobilisations au niveau national, au niveau européen, c'est de savoir comment ces réponses qui sont des réponses européennes, comment on peut imposer y compris une autre démocratie, etc., par où ça passe et comment on construit un rapport de force réel à l'échelle européenne. Pour donner un exemple, l'an dernier, il y a eu des élections en Grèce où, pour la première fois depuis des années, il y avait une vraie gauche, on va dire. Après... pas obligatoirement, je veux dire, je la connais de loin, c'est peut-être pas la gauche telle que je la rêve de façon absolue, mais en tout cas, c'était pas une gauche social-libérale qui était proche éventuellement d'être la première force électorale en Grèce. Bon, on sent bien que dans les petites choses qui peuvent faire basculer une situation, y compris comme celle-là, à un moment donné, du bon côté et pas du côté du résultat tel qu'il a été, ben, c'est aussi le fait que les populations se sentent réellement soutenues et pas en train de se dire on va s'isoler complètement en Europe, ce qui est ce qu'on a essayé de leur faire croire, y compris François Hollande étant le premier à aller porter ça directement à la télé en Grèce pour dire si vous faites ça, etc., c'est pas possible, quoi.
Donc concrètement, si on va aller à ce Alter Sommet, participer à ce mouvement social et politique au sens noble, il y a moyen de se rendre à Athènes. Toutes les informations sont sur les sites web de l'Alter Sommet. On appelle souvent Alter Summit.
Alors Alter Summit, c'est le terme en anglais. Alors simplement pour donner quelques éléments d'information, hein, l'Alter Sommet, en fait, c'est un regroupement d'organisations syndicales, d'associations, d'ONG, de réseaux européens assez divers qui portent cette initiative-là. En français, on dit Alter Sommet, mais voilà. Et donc, c'est le 7 et 8 juin à Athènes. Et donc, il y aura discuté à cette occasion-là un contre-mémorandum, en fait, hein, de propositions alternatives sur lesquelles ces organisations se sont mis d'accord, même s'il y a encore des questions sur lesquelles il y a des besoins de progresser. Et autre chose qui va être important à cette occasion-là aussi, c'est que ça va être la confrontation avec un vrai mouvement social de défense contre l'austérité tel qu'il n'existe pas chez nous, par exemple, puisque en Grèce, il y a un mouvement qui part de l'idée « personne ne doit rester seul face à la crise », mais qu'un mouvement social extrêmement fort et extrêmement vif, je dirais, d'organisation d'alternatives concrètes, en fait, face à l'austérité. Et l'idée qu'on a, nous aussi, c'est que les mouvements puissent se renforcer à cette occasion-là, en allant en Grèce, y compris apprendre de chacun ce qui peut être fait dans des luttes communes au niveau européen et dans la mise en place de ces alternatives-là.
Alors on continue finalement avec cet agenda. On va commencer par un drôle d'agenda vu qu'on va appeler à ne pas aller quelque part.
Mais oui, n'allez surtout pas à la manifestation du 26 mai à laquelle appelle François Copé de toutes ses forces, puisqu'il dit que la France a besoin d'un nouveau mai 58, n'est-ce pas, et d'un nouveau général de Gaulle. Donc c'est un véritable appel au coup d'État. Pour ne pas dire à la guerre civile, il l'a écrit dans le Figaro, il l'a dit très clairement dans son meeting à Nîmes le 6 mai, où, se prenant pour un prophète biblique, il dit « Je le prédis, il y aura bientôt un printemps des cons ». Ce qui est un peu surprenant parce que le gouvernement, si c'est lui qui est...
Alors c'est autobiographique.
Il y a un an. Pardon ?
C'est une œuvre autobiographique de Copé.
Oui, c'est ça, mais le Printemps des cons, c'est un peu curieux, parce que si c'est vraiment les cons en place, ils sont en place depuis printemps, été, automne et hiver dernier.
Très beau film.
Très beau, ah oui. Et donc là, on comprend que les cons, ils vont être dans la rue avec Copé.
Et ils y seront, malheureusement. Allez, on attaque l'agenda.
Le vrai agenda, avec Gaël. Les indignés, qu'on appelle aussi démocratie réelle maintenant, organisent une gratiféria. La gratiféria, c'est un espace de gratuité où chacun peut donner ce qu'il veut, des biens, des services, des idées, des créations. Donc vous y allez avec ce que vous voulez, même rien du tout si vous voulez. C'est le dimanche 12 mai à 14h, place Stalingrad, place de la Rotonde, Paris 10e.
Le mardi 14 mai à 20h au foyer de Grenelle, 17 rue de Lave, Paris dans le 15e, une conférence débat organisée sur la réforme bancaire pour qui, avec Dominique Plion, accessoirement porte-parole d'Attaque.
Alors, le même 14 mai à 18h45 à la Maison des sciences économiques dans la salle de conférence du 6e étage, c'est très précis, 106-112 boulevard de l'Hôpital, Paris 13e, le mouvement Utopia est heureux de recevoir Paul Ariès, politologue, essayiste et rédacteur en chef de journaux militants. Il nous fera part, par exemple, de son analyse sur l'impasse de nos sociétés et le nécessaire pas de côté à faire pour retrouver les sentiers de l'utopie.
On a parlé tout à l'heure de l'accord national interprofessionnel LANI. Attaque du 18e et 19e arrondissement Attaque PNO organise une réunion sur LANI animée par Oriane Cottenet en travaillant avec Sud Solidaire le mercredi 15 mai 19h30 à la maison des associations du 18e 15 passage Ramé.
Le lendemain, c'est le FRAP qui commence. Le FRAP, c'est le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. C'est le jeudi 16 mai à 19h au Bois d'Ormois, Cité de la Chapelle, Paris 18e.
Et alors, le mercredi 22 mai à 20h au CICP, rue Voltaire, 21 Terre, rue Voltaire. Où sont passés les intellectuels ? C'est un débat en présence de l'auteur de l'ouvrage en question, Enzo Traverso.
Alors, le 23 mai à 19h, à la librairie Folie d'encre, 14 place du Caquet à Saint-Denis, rencontre avec Éric Hazan autour de son livre « Une histoire de la Révolution française ».
La fête des peuples en route vers l'Altersommet, dont on a parlé cette dernière partie d'émission, est organisée. Une réunion est organisée le 24 mai à 20h30 à Antony, à la salle François Mollet, grâce à Attaque 92 Sud.
Les samedis 25 et dimanche 26 mai, la 6e édition du Petit Salon du Livre Politique, c'est de 14h à 22h au lieu dit 6 rue Sorbier, Paris 20e.
Alors le samedi 1er juin de 14h à 17h30 à l'Université Paris 1 Panthéon, les économistes intérêts organisent un événement intitulé « L'austérité ne marche pas, mais comment en sortir ?».
On a terminé la première partie de l'émission. Si vous êtes en rediffusion le mercredi matin, ça s'arrête là. Sinon, ne quittez pas l'antenne, l'émission reprend après cette chanson qui termine pourtant cette première partie. On va écouter The Who Won't Get Full Again.